Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de la Judée, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors, Jérusalem et toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion, et n'allez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la hache se trouve à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas capable de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc nous continuons ce que nous avons commencé dimanche, samedi dernier, pour entrer dans le temps de l'Avent. Je vous rappelle ce que nous avions mis en lumière dans l'évangile de dimanche dernier et qui est toujours surprenant, mais qu'on va appliquer aujourd'hui. Jésus prétend qu'il vient à nous comme un voleur. Vous vous rappelez que ce n'était pas très flatteur. Cela veut dire que Jésus vient par surprise et qu'il faut aller chercher l'intelligence de ce que Jésus veut nous communiquer, à la fois lui, les prophètes et le dernier des grands prophètes, Jean-Baptiste, qui vient préparer les chemins du Seigneur. Déjà, nous voyons que l'Évangile commence par mettre en lumière la figure de Jean-Baptiste et non pas celle de Jésus. Jésus vient comme un voleur. Il faut aller faire un petit détour du côté de Jean-Baptiste pour se préparer à accueillir les paroles et les gestes de Jésus. Donc, comme la semaine dernière, je prends simplement les mots de l'Évangile et nous les interrogeons. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi c'est écrit comme ça? Et qu'est-ce que Matthieu, et par saint Matthieu, qu'est-ce que l'Esprit-Saint, et donc Dieu, veut nous faire connaître, nous faire comprendre de la bonne nouvelle, de la rencontre entre Dieu et son peuple? Tout simplement, la première expression, en ces jours-là. Ce n'est pas une date particulière. On peut connaître cette date. Jésus commence son ministère en l'an 27 du premier siècle de notre ère, il y a 2000 ans, et avant lui, au moins un an avant, Jean-Baptiste a commencé lui aussi, avant Jésus, à parler. Et comme c'est Jean-Baptiste qui parle comme prophète, on prend l'expression que nous avons dans les grands prophètes d'Israël, « viennent les jours du Seigneur, en ces jours-là ». Ce n'est pas une date chronologique, c'est un moment où par quelqu'un, Dieu est en train de se manifester. C'est Dieu qui est en train d'agir. Et comme Dieu vient dans notre temps, comme Dieu vient dans notre histoire, on aime bien développer cette expression « voici le jour » ou « voici les jours du Seigneur ». Je pense que chacun se rappelle que pendant toute la semaine de Pâques, on chante cette antienne « Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alléluia ». C'est un jour où Dieu se manifeste de manière exceptionnelle, extraordinaire, et nous avons besoin d'identifier la manière dont Dieu se manifeste à nous. L'expression un peu plus large, en ces jours-là, ce n'est pas le jour, c'est les jours, veut quand même dire que c'est Dieu qui est en train d'intervenir à travers le ministère, les paroles, les gestes, les vêtements, la prédication de Jean-Baptiste lui-même. Dieu vient lui-même nous parler. Savons-nous l'entendre? Savons-nous reconnaître le jour du Seigneur? Dans la semaine, le premier jour de la semaine, le dimanche, est un jour où certainement Dieu vient nous parler de manière particulière. Savons-nous honorer le jour du Seigneur pour bien entendre ce qu'il nous dit? À la lumière du dimanche, on peut penser que chaque jour de la semaine a aussi une grâce particulière. Le samedi, nous le savons, c'est un jour consacré à la Vierge Marie. Et on peut penser et on peut prier Notre-Dame des Victoires pour venir nous rendre attentifs à ce que Dieu veut nous communiquer à travers cette page d'Évangile qui met en scène la figure de Jean le Baptiste. Avant de dire Jean le Baptiste, on a un verbe, le verbe paraître. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, comme une apparition. Pourtant, il ne descend pas du ciel, il est né de sa maman que nous connaissons, Sainte Élisabeth. Il a un papa qui s'appelle Zacharie, il a grandi dans l'orbite de Jérusalem. On ne sait pas très bien ce qu'il a fait pendant une trentaine d'années, mais tout à coup, et pour préparer le ministère de Jésus lui-même, tout à coup, Jean-Baptiste, qui jusque-là était discret, apparaît comme un phénomène qui vient de Dieu lui-même. Reconnaissons la bonté de Dieu qui vient nous réveiller de notre histoire quotidienne, souvent un peu banale, quelquefois malheureusement un peu grise. Et voilà qu'une sorte d'apparition qui vient solliciter toute notre attention. C'est le jour du Seigneur et il y a une apparition. Nous ne sommes pas en général gratifiés comme saint Paul d'un chemin de Damas, et encore, est-ce que chacun n'a pas dans son existence des souvenirs d'une rencontre particulière dans un lieu donné, dans un temps donné, avec Dieu lui-même qui s'est manifesté à nous? Ça peut être une conversation, ça peut être une prière, ça peut être une confession, ça peut être une communion, ça peut être une confirmation. Avons-nous tous des chemins de Damas, des moments et des lieux où Dieu vient nous solliciter, vient nous rencontrer? Jean le Baptiste, quel est ce nom qu'il porte? Jean est un nom bien connu, il a une origine biblique, sémitique. Yohanan veut dire que Dieu fait grâce. C'est toute une histoire dans les récits sur Jean-Baptiste dans l'Évangile. Le papa de Jean-Baptiste s'appelle Zacharie, ce qui veut dire « Dieu se souvient ». Et quand Élisabeth, sa femme, était prête à accoucher, comme ils étaient âgés tous les deux, les voisins étaient venus pour prêter main forte à l'accueil de cet enfant pour cet accouchement dans les montagnes de la Judée. Et les voisins, croyant bien faire, le papa étant âgé et n'ayant pas encore d'enfant, voulait, dans une tradition familiale qu'on trouve encore dans nos traditions, pensait l'appeler du même nom que son père. On va appeler le fils comme s'appelle le père, pour manifester la continuité de l'histoire et de la tradition. Et voilà que l'ange avait annoncé à Zacharie, non, il s'appellera Jean. Ce n'est plus le moment simplement de se souvenir du passé. Le présent et le futur sont plus que la continuité du passé. Dieu intervient de manière exceptionnelle. Et ce que Dieu va manifester par Jésus, mais il le prépare avec le prophète qui le précède, le petit Jean, c'est justement quelqu'un qui porte le nom de Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde, Dieu pardonne, Dieu sanctifie. Voilà, c'est ce très beau nom, vous voyez, Jean en français a perdu, bien entendu, de cette consonance, de cette signification, mais nous devons savoir que la plupart des noms de personnes ou des noms de lieux dans la Bible signifient quelque chose et que quand on porte un nom biblique, ça dit peut-être quelque chose de notre vocation. Ainsi, Jean-Baptiste, et c'est important parce que nous allons voir que ses paroles sont assez rudes, va porter un message de pardon et de miséricorde à l'ensemble de son peuple de la part de Dieu lui-même. On le surnomme le Baptiste. Oui, il y avait des baptêmes dans la vie du peuple juif avant Jésus. Jésus n'a pas inventé le baptême. Baptême, baptisé, en grec, ça veut dire plonger. L'idée de plonger dans l'eau, ce sont des rituels qui sont très classiques dans de nombreuses religions, car l'eau est le symbole de la vie. Un enfant dans le sein de sa mère patauge un peu dans de l'eau, et l'eau qui apporte la vie, la fécondité, a toujours été un signe projeté, mis en honneur par le rituel du temple de Jérusalem et comme un symbole de l'intervention de Dieu pour développer en nous la vie. Alors il y a toutes sortes de baptêmes, c'est pas encore le baptême chrétien, il y a toutes sortes de baptêmes, soit des baptêmes quotidiens, on fait des ablutions, on se plonge dans une piscine comme pour renaître chaque matin, ou alors il y a des plongées dans de l'eau à des moments particuliers et notamment, comme va le faire Jean-Baptiste, pour reconnaître que nous sommes en état de faiblesse, que nous avons péché et que nous cherchons l'aide de Dieu pour nous convertir, changer de vie et correspondre à la volonté de Dieu. On peut y penser en se lavant le matin, toute ablution d'eau, voyez, peut nous rappeler ce baptême unique que nous avons reçu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça s'appelle non pas un sacrement, mais un sacramental. Ce sont des gestes symboliques à notre disposition, un peu comme l'eau bénite que nous avons à l'entrée ou à la sortie d'une église, qui sont en lien avec la mémoire de notre baptême et qui sont des petites aides, voilà, que Dieu nous donne pour nous rappeler que nous avons une vocation et que Dieu nous accompagne pour accomplir cette vocation. Où se trouve Jean-Baptiste ? Dans le désert de la Judée. Ce n'est pas normal. Jean-Baptiste devrait être quelque part de très précis. Il devrait être dans le temple de Jérusalem. Pourquoi ? Parce que son père, Zacharie, est prêtre et que les prêtres de l'Ancien Testament devaient exercer leur ministère dans le temple. Or, Jean-Baptiste, qui hérite du sacerdoce de son père, prêtre de l'Ancien Testament, ne se trouve pas dans le temple de Jérusalem, il se trouve à côté, à une vingtaine de kilomètres, dans un lieu désert, comme son nom l'indique. Quelle est la symbolique du désert? D'abord très naturel, c'est un lieu où, comme rien ne pousse, rien ne vit, c'est un lieu de mort, on cherche le secours de la vie, non pas en bas, puisqu'il n'y a rien dans le désert, mais plutôt en haut. Seul Dieu peut venir dans le désert pour apporter ce qui est nécessaire à la vie. Le temple, c'est aussi un lieu de Dieu, mais c'est un danger pour toutes les religions de devenir un peu propriétaire des signes que Dieu nous adresse et de croire que c'est nous qui pouvons les manipuler comme nous voulons. Alors c'est vrai que nous sommes maîtres de notre temps et de nos lieux. Il ne faut jamais oublier que dans les prières sacramentelles, la prière de la messe en particulier, mais aussi le baptême, mais aussi la confirmation, mais aussi le pardon, c'est toujours une rencontre avec Dieu lui-même. J'ai fait des milliers de baptêmes, à chaque fois c'est le Christ qui baptise. Des milliers de fois j'ai dit « ceci est mon corps », c'est pas mon corps, c'est le corps du Christ. Et donc il faut bien toujours se rappeler que c'est Dieu qui maîtrise et qui surplombe ce qui se passe dans les prières, dans les sacrements, dans l'organisation de nos pèlerinages et de nos dévotions, notamment dans notre basilique ici même. Et c'est Dieu qui a inspiré Jean-Baptiste de quitter le temple pour aller dans le désert de la Judée. Au bout de ce désert, à 20 km à vol d'oiseau depuis Jérusalem, il y a un endroit très particulier, l'endroit émergé le plus bas du monde, à 400 mètres en dessous du niveau de la mer, c'est la mer morte, une mer qui est saturée de sel, dans laquelle il n'y a pas de vie. Voilà certainement la région dans laquelle Jean-Baptiste venait, et c'est très important pour nous. Jean-Baptiste va témoigner de la puissance de Dieu dans un endroit où il n'y a rien à attendre au plan humain. Un lieu quasiment désespéré, presque désespérant. Et il est bon, mes amis, de savoir que lorsque nous traversons des épreuves importantes, ça peut être personnel, ça peut être familial, ça peut être mondial, on ne sait jamais, selon une expression familière, quand on touche le fond, l'histoire n'est pas finie. C'est Dieu qui vient au secours de notre faiblesse et il est bon de pouvoir expérimenter les bas-fonds de notre humanité afin de pouvoir rebondir, non pas par nos propres forces, mais avec l'aide de Dieu qui fait alliance avec nous et qui nous promet de nous assister et de nous secourir. C'est l'expérience de Jean le Baptiste dans le désert. Dans le désert, il n'y a que Dieu qui peut le faire vivre. Un peu comme 30 ans plus tard, Jésus va se présenter lui-même au calvaire et affrontant la mort, il n'y aura que Dieu qui pourra le ressusciter. Vous voyez que c'est une expérience importante qui mettent en lumière notre espérance, notre foi en Dieu qui rend possible un avenir qui nous échappe. Mais savoir mesurer notre existence avec la main de Dieu qui vient à nous, c'est une expérience formidable. Nous avons fêté pendant cette semaine, nous avons célébré la mémoire de Charles de Foucault. Charles de Foucault, par exemple, a vraiment voulu connaître les situations les plus humbles, les plus modestes, les plus humiliantes même dans le désert, afin d'expérimenter comment dans les situations même extrêmes, Dieu était fidèle, Dieu venait à notre secours. Donc on pourrait en conclure, à la suite de Jean-Baptiste, n'ayons pas peur, même des épreuves quand elles nous tombent dessus, c'est une occasion pour Dieu de se révéler comme il le fait pour Jean-Baptiste. Quelle est son annonce de fait ? Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Voilà une expression importante. Le règne de Dieu est tout proche. Qu'est-ce que le règne de Dieu ? Qu'est-ce que la royauté de Dieu qui vient à nous ? La royauté de Dieu est révélée dans la Bible à des moments très particuliers. Il y a au moins le premier moment, on appelle la première occurrence de la confession de Dieu qui règne, qui est à bien connaître. C'est pendant le moment de la libération de l'esclavage en Égypte. La royauté de Dieu qui exprime son pouvoir, sa capacité d'intervenir et de sauver, ne se fait pas dans un contexte arbitraire, mais dans un contexte bien éclairé. Là encore, celui d'une situation très négative. C'est parce que ça va mal que Dieu vient manifester sa puissance. Et Jésus le dira souvent, « Je ne suis pas venu pour les bien portants et pour les justes, je suis venu pour les malades et pour les pécheurs. » Et la conversion, c'est précisément de sortir de ces habitudes où nous ne nous confions qu'à nous-mêmes pour recevoir l'aide de quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre est Dieu lui-même. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes engagés, grâce à Dieu, dans un processus d'alliance, de partenariat, qui fait que Dieu vient au secours de notre faiblesse. Nous aimons prier à Notre-Dame des Victoires. Grâce aux sœurs, il y a des offices matin, midi et soir. Tous les grands offices chrétiens commencent par cette invocation « Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours ». Le Dieu que nous invoquons pour nous aider, pour nous secourir, c'est le roi du monde qui vient nous introduire dans son royaume, c'est-à-dire qui nous fait sortir de notre quotidien souvent dénué de sens pour nous faire partager la vie qu'il possède en plénitude, qui le caractérise et à laquelle il veut nous donner part. C'est une immense générosité, c'est une immense bonté de Dieu, et nous le prions plusieurs fois par jour quand nous disons la prière du Notre Père. Comme par hasard, lorsque les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier, au tout début du Notre Père, nous avons cette demande « Que ton règne vienne ». Ce n'est pas une petite chose. Nous demandons à Dieu, matin, midi et soir, quelque chose d'immense. Parce que c'est Dieu qui nous apprend à prier, et par là même, Dieu nous apprend que nous ne sommes pas faits pour des petites mesures, pour des demi-mesures, pour des banalités. Nous sommes créés, nous sommes voulus, nous sommes aimés par Dieu pour vivre quelque chose d'important, quelque chose qui a de la valeur. La vie humaine a une valeur immense. Je ne parle pas de la vie en soi. La vie de chacun d'entre nous a une valeur immense aux yeux de Dieu. Et la conversion du monde, c'est de reconnaître la richesse, l'importance, le trésor que représente chacune de nos vies. Ce qui nous invite à respecter nos propres vies, à les orienter vers notre vocation, et à respecter, bien entendu, la vie des autres. Ça, c'est le trésor de l'Évangile, c'est le trésor de l'Église. Il faut que nous soyons capables d'en rendre témoignage. Je l'ai dit la semaine dernière, je le répète, la semaine prochaine, il n'y aura pas notre leçon évangélique, parce que à 15h, à Notre-Dame, il y aura donc la béatification de ces 50 jeunes gens, vous voyez, en 1944 et 1945, envoyés dans les camps de travail où les nazis enfermaient des millions de personnes et non seulement les maltraitaient, mais leur faisaient subir une propagande indigne. Le nazisme était un mépris de la vie, comme un mépris et un rejet du Dieu, et notamment du Dieu des chrétiens. Et ces jeunes gens sont allés, non pas travailler simplement avec les autres, mais ils sont allés redonner la connaissance de l'Évangile et par là même le côté précieux de chaque vie qui est un trésor. Et c'est à cause de cela qu'ils ont été emprisonnés, torturés et exécutés. Je vous recommande, samedi prochain, non pas d'aller à Notre-Dame, car bien sûr, 50 familles seront là et Notre-Dame sera déjà remplie, mais par KTO ou par les radios, il y aura la retransmission de cette célébration et dans les journaux et autres, il y aura cette semaine et après des informations très précises sur l'enjeu de cette béatification. Ne passons pas à côté de cet événement. C'est tout à fait dans la veine de la prédication de Jean-Baptiste de reconnaître combien le règne de Dieu se révèle être la mesure de notre vie humaine. Nous sommes faits pour être rois et non pas pour être esclaves. Et ça vient de Dieu. Merci, mon Dieu. Alors, Jean-Baptiste se présente dans la mouvance des grands prophètes, et notamment le prophète Isaïe que nous lisons pendant le temps de l'Avent. Au chapitre 40, nous avons ce texte qui est dans tous les évangélistes, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Vous savez certainement comment il faut découper le texte. Il ne s'agit pas de crier dans le désert, parce que dans le désert, il n'y a personne pour vous écouter, mais il s'agit de crier de points, ouvrez les guillemets, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Alors, préparez le chemin du Seigneur dans le désert, normalement, c'est clair pour nous tous. Dieu s'est montré le guide de son peuple quand il le libère de l'esclavage en Égypte et pendant 40 ans va le conduire dans le désert pour arriver jusqu'en terre promise. Notre vie est un chemin. On dit que l'Église est en pèlerinage sur la terre et nous aimons dans notre basilique venir en pèlerinage, nous aussi. Nous avançons. Mais quand on vit en pèlerinage dans la basilique, est-ce que nous nous rendons compte que nous sommes conduits par le Seigneur ? Moi, je viens parce que les sœurs m'ont demandé de venir, mais j'ai discerné dans l'appel des sœurs la main de Dieu qui dit ben, « il est bien de venir le samedi à 15h30 à Notre-Dame des Victoires pour faire le chapelet et pour lire l'Évangile ». Quand nous venons prier, nous nous laissons conduire par le Seigneur. Faisons-nous encore, mes amis, notre examen de conscience le soir. Je dis plutôt le soir. Quand la journée se termine, est-ce que nous prenons quelques moments pour nous rappeler ce qui s'est passé pendant la journée et discerner comment nous avons pu rencontrer le Seigneur qui nous a guidés, inspirés pour faire tel ou tel geste, pour dire tel ou tel mot? Avons-nous accepté cette influence qui vient de Dieu et nous disons merci? Avons-nous résisté? Avons-nous refusé de faire ce que Dieu nous demandait et nous en demandons pardon? Mais c'est bien le seul moyen, à mon avis, jour après jour, de progresser dans la reconnaissance que nous ne sommes pas seuls sur le chemin de la vie et que nous nous disposons de jour en jour à mieux nous laisser influencer par l'Esprit du Seigneur. Voilà la prédication de Jean-Baptiste, et c'est cela qui nous permet d'arriver en terre promise. Rendez droit ces sentiers, c'est une image très simple pour dire que nous devons améliorer nos réactions vis-à-vis de notre prochain et aussi, bien sûr, vis-à-vis de Dieu lui-même. Un peu plus cocasse, on nous dit comment Jean est habillé. Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Ce n'est pas le dernier chic à cette époque-là, c'est ce qu'il y a de plus simple à se mettre sur le dos lorsque l'on vit dans la pauvreté. C'est le signe, pas simplement de l'ascèse, c'est une manière de se remettre dans les mains de Dieu. Je citais Charles de Foucauld tout à l'heure. Charles de Foucauld, lui aussi, avait des inspirations pour vivre dans une extrême simplicité, pour le plaisir de sentir combien Dieu venait pour le consoler. Ça rappelle une scène d'évangile qui est très belle. C'est à la fin des évangiles synoptiques de saint Matthieu, de saint Luc, lorsque Jésus est dans le trésor du temple. Alors, il voit des gens très riches qui mettent de leur superflu, et puis il voit une petite vieille qui met 2 piécettes. Et Jésus fait un commentaire, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors, est-ce qu'il faut le comprendre, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre? Non, elle avait 3 sous, elle a donné 3 sous, et puis après, elle est prête à mourir? Non, il y a une autre idée. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre, afin de vivre, certaine dans la foi que Dieu allait lui rendre au centuple ce qu'elle lui donnait. C'est beaucoup plus subtil, mais c'est peut-être aussi la vraie relation à Dieu. Dieu ne veut pas que nous souffrions pour rien, il veut que nous soyons en communion, en bonne relation avec lui, et que nous expérimentions combien il vient au secours de notre faiblesse. Là encore, je citerai volontiers l'exemple de saint Paul. Il me semble que saint Paul s'est très souvent mis dans des situations extrêmes de danger, exprès pour voir si Dieu allait faire quelque chose, en disant « Non, là vraiment, Dieu ne le fera pas ». Eh bien si, Dieu le faisait. Vous voyez ? Je crois que dans nos vies, Dieu se montre convaincant, convaincant de sa présence, même dans les moments où de manière spontanée nous dirions « il ne peut pas être là ». Eh bien si, il est encore là. J'avoue que j'ai vu le film qui vient de sortir sur Jean Valjean, le premier livre de la rencontre entre Jean Valjean et l'évêque de Digne, qu'on surnomme Monseigneur Bienvenu. Nous sommes à chaque fois tant du côté de Jean Valjean que du côté de Monseigneur Myriel. On est à chaque fois dans des situations extrêmes. Ça devrait s'arrêter, ça ne devrait pas pouvoir donner du fruit, et pourtant la rencontre et la conversion sont là. Je dis ça parce que je suis quand même dans une grande admiration, merci mon Dieu, qu'en 2025 on puisse avoir sur les écrans des films admirables, admirablement joués et admirablement composés sur des thèmes extrêmement chrétiens qui sont la fleur même de l'Évangile. Comme quoi, mes amis, il ne faut pas trop se plaindre non plus. Donc, Jean-Baptiste fait confiance à Dieu et il est soutenu par le Seigneur, ce qui fait que beaucoup de fidèles viennent de Judée, du Jourdain, de Jérusalem, viennent auprès de lui et il les baptise dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Alors Jean-Baptiste n'était pas le seul donc à faire des baptêmes de conversion, mais sa parole, pourtant sévère, est spécialement reconnue comme une parole de Dieu lui-même. Vous voyez, Dieu, quand il veut nous toucher, il prend les moyens et il est bon de se laisser faire. Pour autant, et alors qu'aujourd'hui, les gens qui ont du succès tombent généralement dans des pièges épouvantables, Jean-Baptiste reste d'une grande prudence, d'une grande humilité, et il délivre un message tel que Dieu veut le faire connaître pour préparer la venue de Jésus. Ça commence de manière violente. Engeance de vipère, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Pourquoi Jean-Baptiste dit-il cela? Nous sommes bien d'accord, mes amis, que quand un texte, quand une phrase, quand des mots sont un peu étranges, il faut les interroger. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont l'air d'être très gentils, puisqu'ils viennent obéir à la proposition de Jean. Jean propose de les baptiser, ils viennent se faire baptiser. Pourquoi se met-il à les invectiver? Alors il dit, « Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?» Qu'est-ce que c'est que la colère qui vient? Alors la colère, c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une passion comme dans notre histoire où nous pouvons bêtement nous mettre en colère et devenir très violents. Et c'est un péché capital qu'il faut éviter. La colère de Dieu, c'est autre chose. Alors on dit quelquefois, ah mais c'est l'Ancien Testament, c'est pas le Nouveau. Non. On l'a dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. On l'a même dans les scènes de jugement et de jugement dernier. Mes amis, nous aurons tous un jour à affronter la colère de Dieu. En quel sens? La colère de Dieu, c'est très simple. C'est la dénonciation du péché que nous avons commis. La colère de Dieu, c'est de nous faire comprendre que nous avons péché et que nous avons souvent fait le contraire de ce que Dieu voulait. C'est un constat. Et il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'en telle ou telle circonstance, nous avons péché. Ce n'est pas très compliqué. À chaque messe, dans le « Je confesse à Dieu », nous reconnaissons que nous avons péché. Mais quelquefois, on est un peu distrait et on ne met pas trop de contenu. Là, à la lumière de la parole de Dieu, nous nous rendons compte que nous ne correspondons pas naturellement à ce que Dieu veut. Et alors, si Dieu prend du temps pour nous faire reconnaître que nous avons péché, ce n'est pas pour nous enfoncer la tête sous l'eau. C'est au contraire pour nous faire sortir de cet empoisonnement, de cette noyade dans le péché, pour nous en libérer. La colère, c'est ce qui prépare le pardon. Mais le pardon ne peut vraiment être efficace que si il est reçu de manière lucide. Quelqu'un qui n'a pas conscience d'avoir péché n'a pas besoin d'être pardonné. Or, nous avons tous, mais nous n'avons pas tous conscience de manière assez claire, nous avons cet écart, quelquefois violent, quelquefois tout petit, avec la volonté de Dieu lui-même. Et c'est tout simplement cela qu'on appelle la colère. La colère, dans ce sens-là, c'est très utile, c'est un cadeau, c'est bienfaisant. C'est un peu comme si on va voir son médecin qui vous dit « Ah, vous avez tel et tel symptôme, vous avez telle ou telle maladie. Ah, horreur. Il y a un traitement. Ah, très bien. » Voilà. La colère, c'est le diagnostic qui nous révèle que nous ne sommes pas au point et qui précède le don du médicament, le don du pardon, le don de la sanctification ou de la justification. Alors, les pharisiens et les sadducéens, pourquoi se font-ils tancer par Jean-Baptiste en venant recevoir ce baptême? Peut-être qu'ils le faisaient de manière superficielle ou superstitieuse, en disant « on ne sait jamais ». Au temple, il y avait des rites qui venaient vous apporter le pardon. Oui, mais ce qu'il fallait, c'était aussi s'engager de manière plus personnelle, de manière plus vivante, de manière plus vraie. Ce qui caractérise souvent le religieux dans son rapport à la vérité et qui nous menace toujours, faisons attention, c'est l'hypocrisie, c'est de faire semblant. Voilà, je confesse que j'ai péché, mais en fait, moi, je n'ai pas péché, ce sont les autres qui ont péché. Non, ça ne marche pas. Oui. Il faut sentir que nous-mêmes, nous sommes véritablement concernés. Et c'est une manière pour Dieu de nous prendre très au sérieux. Nous ne sommes pas dans l'infantilisation, nous ne sommes pas mécanisés par l'Évangile. Au contraire, nous sommes rendus encore plus vivants par le regard et la relation que Dieu veut établir avec nous. Vous vous rappelez l'adage de saint Augustin, connaître la volonté de Dieu, c'est arriver à se connaître soi-même, l'idéal d'un philosophe qui s'appelle Socrate. Oui, l'Évangile répond à toutes les bonnes ambitions que nous pouvons identifier. Donc il s'agit d'entrer vraiment dans ce processus de protection. Car nous ne sommes pas protégés par quelqu'un d'autre que Dieu lui-même. Jean-Baptiste dit, « N'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. » Ce qui voudrait dire, en clair, « Ah ben, nous avons été baptisés, nous avons été à la messe, nous avons fait ce qu'on nous demandait, donc nous sommes tranquilles. » Non, ça ne marche pas comme ça. Nous sommes toujours vivants devant Dieu, responsables de nous-mêmes et vivants dans une relation qui est elle-même vivante. Nous ne sommes pas chrétiens une fois que nous sommes baptisés. Chaque matin, nous sommes invités à réveiller la relation, le rapport avec la présence de Dieu lui-même qui va continuer à nous guider tous les jours. Il faut remettre l'ouvrage sur le métier chaque jour. Rien d'automatique ne nous sauvera. Nous sommes devant Dieu qui est une personne vivante. Et nous-mêmes, nous sommes vivants chaque jour devant lui et responsables de notre comportement devant lui comme devant notre prochain. C'est l'appel à la vigilance, à la responsabilité. Mais n'en va-t-il pas de notre dignité? Oui, Dieu nous prend donc au sérieux dans son alliance. La comparaison avec faire surgir des enfants à des pierres que voici s'entend dans le côté très historique de l'Évangile. Alors, petite parenthèse pour vous convaincre de la réalité de ces scènes. Jean-Baptiste a vraiment existé, il parle une langue dans un pays tout à fait particulier. Et là, en hébreu, Jean-Baptiste fait un jeu de mots. Le mot pierre, les pierres, les cailloux, se disent les abanim. Et les enfants, ça s'appelle des banim. Donc il y a un jeu de mots entre enfant et pierre. En français, ça ne marche pas, ça ne marche qu'en hébreu. Mais à Abanim, Efchar la Sot Banim, je ne parle pas l'hébreu pour le plaisir de vous le faire entendre, mais simplement pour se dire, ah, ces paroles, elles ne sont pas dans un livre, elles ont vraiment été prononcées, elles existent. Et je vous disais au tout début, elles sont inspirées par Dieu lui-même. Voilà, il y a quelque chose, je crois, de très important dans cette réalité, voyez, de cette prise au sérieux que Dieu manifeste pour nous encourager à bien entendre cette parole. Encore une explication nécessaire sur la présentation de Jésus par Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise dans l'eau, le symbole de la vie, mais celui qui vient derrière moi. Alors, venir derrière, ça veut dire être mon disciple. Oui, Jésus, pendant un temps, a été disciple de Jean-Baptiste, est plus fort que moi. Ça, mes amis, il faut aussi être clair sur cette révélation. Nous avons besoin d'être fortifiés. Eh bien, la vraie source de la force, c'est Jésus qui vient au nom de Dieu et en notre faveur. Ne nous trompons pas de médicaments, ne nous trompons pas de diagnostic. La force que Jésus veut nous donner dans l'Église, dans les sacrements, dans la méditation de la parole, dans le soin que nous prenons de notre prochain, ce sont des indices extrêmement précis et puissants qui viennent au secours de notre faiblesse. C'est cela qu'il faut mettre en œuvre. Le reste n'est que littérature. Et moi, je ne suis pas capable de lui retirer ses sandales. On ne s'improvise pas sauveur. Jésus est le sauveur parce que, à travers lui, c'est Dieu qui vient à nous. Et ce dont nous avons besoin, mes amis, ce n'est pas d'une petite aide, nous avons besoin d'un énorme coup de main, et c'est la main de Dieu qui est vraiment efficace pour nous sauver. Je conclus sur la finale de cet évangile qui est assez terrible. Dieu tient dans la main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire. Quant à la paille, il la brûlera dans le feu qui ne s'éteint pas. De manière assez étrange, il faut admettre que la première prédication de Jean-Baptiste visait à annoncer la fin du monde. Pendant un temps, 3 mois, 6 mois, je ne sais pas, un temps assez long sûrement, Jean-Baptiste a annoncé que la fin du monde était proche. Et dans un deuxième temps, Dieu lui a révélé que ce n'était pas pour tout de suite, mais qu'avant la fin du monde, il y avait la venue d'un Sauveur, Jésus, qui nous permettrait, quand ça viendrait, de vivre la fin du monde de manière heureuse, de manière lumineuse, non pas dans la terreur et la peur, mais au contraire dans la confiance. Vous voyez que Jésus, par cette pédagogie, veut saisir la totalité de notre vie, notre histoire quotidienne, notre histoire éternelle. Entre les deux, il y a le jugement de Dieu qui se manifeste. Si nous vivons dans la fidélité à ce que Jean-Baptiste nous demande, nous n'avons rien à craindre de la confrontation avec Dieu qui nous fera passer de ce monde à un monde nouveau. Grâce au sacrement, grâce à la parole de Dieu, grâce à la charité, grâce à la solidarité, grâce aux soins que nous pouvons montrer les uns envers les autres, nous vivons déjà quelque chose de parfait et d'éternel. C'est pourquoi la prédication de Jean-Baptiste est précieuse. Je vous recommande de bien préparer vous-même ce dimanche, qui commence dans quelques heures. Dimanche prochain, ce sera encore le thème de Jean-Baptiste. C'est un peu plus loin dans l'Évangile, au chapitre 11. Vous le lirez attentivement. Et dans 15 jours, si Dieu veut, nous serons déjà dans les préparatifs immédiats de Noël, puisque ce sera l'annonce de la bonne nouvelle à Marie et à Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un heureux dimanche, lumineux, la Bible à la main. Amen.